France Musique. Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véret.
Le Mexique, la musique et le monde, c'est notre troisième chapitre, les derniers feux de la Révolution. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce Mexique qui fait beaucoup parler de lui en cette première décennie du XXe siècle, bien au-delà de ses frontières et surtout aux États-Unis. Depuis quelques années déjà, la musique mexicaine était largement diffusée dans le pays par ce qu'on appelait « the Mexican bands », les fanfares mexicaines, notamment celles de la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans où en 1885, à l'occasion de l'exposition mondiale du centenaire de l'industrie du coton, le premier orchestre typique mexicain avait obtenu un beau succès et les chants populaires qu'il interprétait avaient séduit le public. Il avait été fondé par un professeur du Conservatoire de Mexico et les musiciens revêtaient l'habit des charros, des cavaliers des grandes haciendas du pays, avec sur la tête le célèbre sombrero. Bientôt, la mode s'était répandue à Guadalajara, où un orchestre typique avait participé à la foire mondiale de Chicago. Mais c'est vraiment en 1902, à l'exposition panaméricaine de Buffalo, que l'orchestre typique mexicain du compositeur populaire Miguel Lerdo de Tejada fait sensation avant de partir en tournée à travers tous les États-Unis. La presse ne tarit pas d'éloges en évoquant ce nouvel orchestre qui interprète des petites ouvertures d'opéra, des valses, des polkas, des passos dobles, des habaneras et même des bambucos venus récemment de Colombie. Entre-temps, aux États-Unis, la Révolution mexicaine est devenue une épopée quasi familière grâce aux photos diffusées par la presse et aux articles réguliers que le journaliste John Reed envoie au Metropolitan Magazine depuis les champs de bataille où il accompagne Pancho Villa pendant quelques mois en 1913. Son livre « Le Mexique insurgé » sera même transposé au cinéma plus d'une fois. et les chants révolutionnaires sont bien sûr très à la mode. Au Mexique, dans le pays en guerre, ce sont les chansons romantiques et sentimentales qui ont de plus en plus la faveur du public. L'une d'entre elles est encore populaire aujourd'hui. Elle a été créée dans un théâtre de Mexico cette année-là, dans une revista, une pièce musicale qui rendait hommage aux beautés de la nation, notamment aux jeunes filles de Guadalajara, les tapatillas, comme on les appelle, tapatillas aux yeux de velours. Ces ojos tapatillos, ces yeux de Guadalajara, vont parcourir toute l'histoire du pays jusqu'à nos jours, surtout quand la chanson sera interprétée dans les années 1930 par le jeune premier Jorge Negrete, grande vedette de cinéma, qui a même tenté l'opéra grâce à sa belle voix de baryton. Une chanson d'amour et de paix, dans cette guerre civile qui semble ne devoir jamais s'achever. De luna, perfume de azares, en el cielo estrellas y tibios los aires y tras de la red. De flores, la novia que espera temblando de amores, sí, al ver esos ojos. Esparcen aromas mejores y todas las flores suspiran de amor.
Toruna, mirada de tan lindos ojos, estrellas y flores padecen en
suspiran, el cielo se apaga. Y en el alma vaga la queja.
Le baryton Jorge Negrete, véritable idole nationale au Mexique, enregistré ici en public à La Havane. En 1917, l'instabilité politique dans le pays s'accroît. Malgré la constitution progressiste qu'il vient de promulguer, le président Carranza s'oppose de plus en plus au brillant stratège qu'est son ministre Obregón suite à l'insécurité dans le pays et à ses échecs pour combattre Pancho Villa. D'autre part, la méfiance de l'Europe en guerre, convaincue que le Mexique soutient les Allemands, n'arrange guère les choses. C'est dans cette atmosphère plutôt sombre que le compositeur Manuel Ponce continue sa croisade en faveur de la musique populaire. Il donne le 19 janvier une conférence dans l'amphithéâtre de l'École nationale préparatoire sur l'importance du folklore dans la formation de l'âme nationale. Après un de ses récitals, il rend aussi hommage au compositeur Ernesto Elordui, décédé 4 ans auparavant, qui était, selon lui, le musicien mexicain le plus important de la fin du XIXe siècle. Il organise même une procession jusqu'à sa tombe dans le plus ancien cimetière de la ville, sur la colline de Tepeyac, près du sanctuaire de la Vierge de Guadalupe. Ernesto Elordui, né en 1853 au sein d'une famille fortunée, avait résidé 20 ans en Europe avec ses parents. il y avait étudié avec Clara Schumann et Anton Rubinstein avant de revenir au Mexique en 1891. En interprétant ces danses tropicales, Manuel Ponce éprouve en cette année 1917 une grande nostalgie de Cuba, où il avait remporté tant de succès. Les Tropicales numéro 3 d'Ernesto Elordui, interprété par Cyprien Katsaris. La nouvelle constitution du 5 février 1917 est un pas gigantesque de progrès social au Mexique. Elle annonce une réforme agraire d'envergure, ce qui signifie que les terres usurpées vont être restituées aux paysans. Elle décrète aussi les lois qui fixent la durée de la journée de travail à 8 heures, le droit d'association en syndicat et le droit de grève. La mise en œuvre se fera hélas attendre longtemps. Quant à la vie culturelle, elle reprend du poil de la bête. En 1918, le compositeur Julián Carrillo revient de son exil de 2 ans aux États-Unis. Figure essentielle de la vie musicale mexicaine, il avait étudié entre 1901 et 1904 en Allemagne, puis en Belgique, à Gand. Puis il était rentré au Mexique, auréolé du succès de sa première symphonie créée au Gewandhaus de Leipzig en 1902. À son retour, le gouvernement le nomme directeur du Conservatoire national de Mexico. Il devient en quelque sorte le musicien officiel du pays. Lors de son départ aux États-Unis, il avait emporté dans ses cartons la partition de sa première symphonie qu'il avait créée à New York à la tête de l'Orchestre América qu'il avait fondé. Musique mexicaine imprégnée de romantisme allemand, comme celle qu'Hollywood lui a commandée pour le film Intolérance de Griffith. Une symphonie qui lui avait valu en Allemagne le surnom de Brahms mexicain.
Thank you.
Le troisième mouvement, Scherzo, de la première symphonie de Julián Carrillo, Jean-Étienne Marie, à la tête de l'orchestre des concerts L'Amoureux. De son côté, au Mexique, Manuel Ponce, lassé par la guerre civile qui n'en finit pas, décide de repartir à Cuba. Il est à La Havane fin janvier 1917 et, ironie du sort, c'est là-bas qu'il reçoit quelques semaines plus tard la confirmation de sa nomination officielle de professeur de piano au Conservatoire de Mexico. Voilà qui change soudain la donne. D'autant plus que les choses ne sont guère plus favorables à Cuba qu'au Mexique. Le 7 avril, en effet, alors que la guerre gronde en Europe, le gouvernement cubain se joint à la coalition des alliés aux côtés des États-Unis et du Brésil et lève même une armée de 25 000 hommes prêtes à intervenir. Décidément, le fracas des armes poursuit Manuel Ponce. Après 5 mois à La Havane, il prépare son retour au pays. Et malgré son inquiétude, il a hâte d'y retrouver la jeune Clémat qu'il y attend et qui va devenir son épouse. Il prend alors congé du public cubain qui l'acclame lors de plusieurs récitals. En juin 1917, il embarque à La Havane pour le port de Veracruz. Manuel Ponce n'oubliera jamais Cuba. Sur le vapeur qui le mène au Mexique, il reste très préoccupé quant à l'avenir de son pays. Elegía de la ausencia, élégie de l'absence de Manuel Ponce par le pianiste espagnol Álvaro Sendoya. À son retour, Manuel Ponce peut assister au succès inouï remporté par la danseuse espagnole Antonia Mercé, la Argentina, qui arrive pour la première fois au Mexique en cette année 1917. Née à Buenos Aires en 1890, elle est la première danseuse flamenca à se produire sur des œuvres des grands compositeurs de son temps. Antonia Mercé achève au Mexique une tournée américaine qui l'a menée d'Argentine en Uruguay, au Chili et au Pérou, puis à New York en février 1916, où la presse ne tarit pas d'éloges et où elle rencontre Granados, qui compose une danse pour elle. De New York, l'Argentina va à Cuba à la fin du mois de janvier 1917. En mai, elle est à Mexico, où elle débute au Théâtre Colón, un théâtre qui n'existe plus aujourd'hui. Malgré la guerre civile dans le pays, elle parvient à réunir un public très vaste qui lui fait un triomphe. Elle s'aventure même, castagnette au bout des doigts, à interpréter la danse des sept voiles de l'opéra de Richard Strauss. C'est un mélange de Salomé et de Maja de Goya, écrira un journaliste. Antonia Mercé était une jeune femme d'une beauté rare, aux immenses yeux de velours vert. Parmi les compositeurs qu'elle avait choisis, il y avait un jeune Joaquín Turina de 35 ans, dont la danse de l'Andalouse sentimentale lui plaisait beaucoup. À la fin de son séjour au mois d'août, Antonia Mercé repart en Europe avec dans ses bagages une médaille en or offerte, je cite, par les ouvriers mexicains à la belle et élégante Argentina.
Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
À Mexico, Manuel Ponce découvre qu'il y a une soudaine renaissance culturelle dans la ville. Il y a même une courte saison d'opéra avec des stars comme le baryton Ricardo Stracciari et le ténor espagnol Hipólito Lázaro. Le 28 décembre 1917, en absence de Julián Carrillo, chef attitré de l'Orchestre symphonique national, Ponce dirige des œuvres de Mendelssohn, Grieg, Liszt et Glazounov et deux semaines après un programme exclusivement germanique. C'est le début de sa carrière de chef d'orchestre. Et puis il retrouve ses élèves de la classe de piano. Parmi eux, le brillant Carlos Chavez, qui était né en 1899 dans une petite ville non loin de Mexico. Il avait perdu son père très jeune et il vivait avec sa mère institutrice. Manuel Ponce sera un peu son grand frère, car après tout, il n'était que de 7 ans son aîné. Il entend aussi parler d'un autre musicien de grand talent, le violoniste Silvestre Revueltas, l'exact contemporain de Chavez. Né, lui, à Durango, dans une famille très modeste, son père tenait les livres de la mine locale. Conscient du talent de violoniste de son fils, il avait envoyé en 1913 avec son frère Fermín, qui était peintre, à la capitale fédérale, puis 3 ans plus tard aux États-Unis, au très catholique St. Edward's College d'Austin, au Texas, où tous deux étudient d'avril à septembre 1917. Silvestre et Fermín découvrent avec bonheur que le Texas devenu nord-américain est resté très mexicain. Et Silvestre joue même les musiques texano-mexicaines dans les orchestres populaires des théâtres.
En el campo yo tengo una rosa y esa rosa se llama amapola. Tú no sabes cómo anda la bola, no te llenes de orgullo, mujer. Tú pensabas que solo contigo pasaría mi vida con calma. Y hay mujeres que roban el alma y no pagan tan mal como tú. Estoy mirando, pero no es de cumplir tus antojos a otra parte. Dirige tus ojos porque yo para ti no he de ser. Ilusiones las que estoy mirando, pero no es de cumplir tus antojos a otra parte. Dirige tus ojos porque yo para ti no he de ser.
Le Quatuor Monterrey de San Antonio au Texas. En 1918, les affres de la guerre civile s'éloignent peu à peu et à Mexico, la vie théâtrale reprend. Cette année-là est inauguré en présence du président Carranza l'un des plus beaux théâtres de la ville. On le doit à la cantatrice Esperanza Iris, qui durant les années de la Révolution a fait fortune en chantant de par le monde les plus grands rôles d'opérette, notamment les viennoises. En 1909, alors que va éclater la Révolution, elle part avec sa compagnie à Cuba pour y créer La Veuve Joyeuse de Franz Lehár. Les billets s'arrachent et l'œuvre dépasse les 150 représentations à La Havane. Cuba sera un peu sa seconde patrie. Elle y reviendra avec sa compagnie pratiquement chaque saison pendant 20 ans. En 1916, elle crée son deuxième grand rôle, La Princesse du Dollar de Léo Fall, en Argentine et en Uruguay. Au Brésil, ses triomphes en ont fait l'impératrice de l'opérette. Le théâtre qui porte son nom est inauguré le 25 mai 1928 avec un concert et la création mexicaine de la Duchesse du Tabarin de l'Italien Carlo Lombardo. Aujourd'hui entièrement rénové, le théâtre d'Esperanza Iris est devenu à Mexico le théâtre de la ville, comme à Paris celui de Sarah Bernhardt. Elle est enregistrée ici dans les années 1920 dans l'air d'entrée de la soprano de Das Fürstenkind, la fille du prince de Franz Lehár, inspirée du roman français Le roi des montagnes d'Edmond Abou. Ça gratte beaucoup, bien sûr, mais c'est très émouvant d'entendre la voix de Esperanza Iris, la soprano mexicaine, qui interprétait ici l'air de la fille du prince Das Fürstenkind de Franz Lehár. En décembre 1918 et en janvier 1919, on sent que la paix est proche, car les artistes internationaux reviennent à Mexico. C'est le cas de la célèbre danseuse russe Anna Pavlova, qui arrive de La Havane. Elle a alors 37 ans. Au Mexique, où la révolution gronde encore, ses débuts sont plutôt chaotiques. Déjà durant la traversée de la Havane à Veracruz, elle et ses danseurs ont dû dormir sur le pont, enveloppés dans leurs costumes de scène. Elle voyage avec plus de 50 danseurs de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Et à Veracruz, le président Carranza a dépêché 200 soldats postés sur le train spécial qui conduit la troupe à Mexico. Comme elle l'a fait à Cuba, la Pavlova aime flâner dans la ville et découvrir les musiques du pays. Et c'est justement l'époque où le poète Rubén Campos fait ses collectages de chants et de danses à travers le pays. Il découvre ainsi de petites merveilles qu'il arrange pour le piano.
Thank you.
Cyprien Katsaris dans ses trois danses mexicaines de Rubén Campos. La dernière va devenir un peu la danse nationale du pays. Elle porte le nom de jarabe. Quand Anna Pavlova, en flânant dans Mexico, voit les danseurs marteler le sol de leurs bottes en interprétant le jarabe, elle se dit qu'elle en fera autant, mais sur des pointes. Et elle commence à répéter avec une danseuse mexicaine. À la mi-janvier, elle fait ses débuts au théâtre Arbeu, sur des musiques de Mozart, Liszt, Saint-Saëns et Massenet, interprétées par un orchestre de 40 musiciens. En février, elle triomphe dans Gisèle, avant de danser devant 16 000 personnes dans la Plaza de Toros, les arènes du quartier de la Condesa au sud de la capitale. Ce jour-là, elle interprète même des danses mexicaines, dont le fameux jarabe tapatillo, le jarabe de la ville de Guadalajara qu'elle a adapté pour la circonstance. Elle a revêtu le costume national mexicain, robes à fleurs et à volants, tresses dans les cheveux. Aux côtés de la Pavlova, le danseur Volonin a, lui, endossé le costume de Charro, le cavalier mexicain en quelque sorte, avec le célèbre sombrero. Son jarabe sur pointe déclenche un tonnerre d'applaudissements. Du jour au lendemain, on le dansera même dans les salons les plus bourgeois. Et aujourd'hui, c'est bien ce jarabe tapatillo de Guadalajara qui est resté le plus célèbre, surtout quand il est interprété par des orchestres de mariachis. Le jarabe tapatillo, interprété ici par l'orchestre de mariachis de Mexico. Le jarabe, c'est au départ le nom d'un sirop de canne à sucre, et il a donné son nom à une danse très ancienne et très populaire dans les campagnes et les villes. On danse par exemple le jarabe dès le XVIIIe siècle sur la scène des théâtres, dans les tonadillas, sorte d'opéra comique très populaire. La Sainte Inquisition l'a même condamné comme danse indécente et diabolique. Comme ici ce jarabe loco, ce jarabe fou et tout à fait endiablé que Jordi Savall a adapté en s'amusant à l'associer à une gaillarde napolitaine. Thank you. Le jarabe loco mexicain tel qu'au XVIIIe siècle par l'ensemble Hesperion 21 de Jordi Savall. En cette année 1919, alors qu'elle enchaîne représentation sur représentation, Anna Pavlova va faire une rencontre inattendue et magnifique. Celle du violoncelliste catalan Pablo Casals, qui arrive le 2 janvier pour la première fois au Mexique en provenance de New York. Il est le soliste d'un concert de l'Orchestre National dirigé par Manuel Ponce et il donne plusieurs récitals dont l'un avec une soprano américaine. Le 31 janvier, il est lui aussi à la Plaza de Toros de la Condesa où il dirige la 9e symphonie de Beethoven. Il joue pour la dernière fois le 2 février dans le théâtre Esperanza Iris flambant neuf. Un soir, il va voir danser la Pavlova, mais cette fois au grand théâtre principal. Casals a décidé de faire une surprise à la ballerine. Il est en coulisses à la fin du spectacle avec son violoncelle et lors des saluts, il entre en scène, embrasse Anna Pavlova et lui propose de l'accompagner dans son grand succès « La mort du cygne » de Saint-Saëns. Un moment inoubliable, ovationné par le public bien sûr et resté dans les annales musicales de Mexico.
Thank you.
des premiers enregistrements de Pablo Casals, accompagné ici par Nikolaï Metnikov au piano, dans La mort du cygne de Camille Saint-Saëns. En 1919, c'est un jeune pianiste d'exception qui honore enfin Mexico de sa présence. Il s'agit d'Arthur Rubinstein, qui a alors 32 ans. Il a déjà conquis l'Espagne et surtout 2 ans auparavant l'Argentine et l'Uruguay, où il a attiré les foules. Si le premier concert à Mexico ne fait pas le plein, le bouche à oreille suffit pour que le théâtre Arbeu soit plein à craquer lors de ses 25 récitals. Le succès est tel qu'un soir, des auditeurs le portent en triomphe jusqu'à son hôtel. Il n'a jamais oublié le succès obtenu par l'Oiseau de feu de Stravinsky qu'il avait arrangé lui-même pour le piano, et bien sûr par Iberia d'Albéniz qui avait particulièrement touché le public. Triana, extrait de Iberia de Isaac Albéniz par Arthur Rubinstein au piano. Décidément, le Mexique en 1919 attire de plus en plus d'artistes étrangers et la fin annoncée de la Révolution tout comme la paix en Europe, déclenche une belle euphorie dans le pays. Voilà donc qu'après la danse, Mexico renoue avec sa grande tradition lyrique. Le 19 avril, le ténor Enrico Caruso, qui est alors la gloire du Metropolitan Opera de New York, y débarque pour la première fois, au sein d'une compagnie italienne qui arrive des États-Unis. Dans les 60 représentations qui ont lieu jusqu'au 19 juin, il chante avec Tita Ruffo et Gabriella Besanzoni dans Aïda, Carmen, La Bohème, Lucia di Lammermoor et Payas. Et il chante aussi dans les arènes de la Condessa. C'est une tradition en fait qui remontait à 1912 quand Carmen y avait été représentée. Le Mexique plaît tant à Caruso qu'il y reste jusqu'en septembre. Il aime beaucoup les chants populaires qu'il entend dans la ville et à son retour à New York, il enregistre en espagnol le 19 septembre 1920 la polka mexicaine Noche Feliz, la nuit de bonheur. C'est juste avant ses représentations historiques à La Havane qui seront ses derniers grands succès, avant son décès un an plus tard.
Toda noche, noche de placer, me encontré con mi bella María y le dije al alma mío, vente chiquitita de mi amor. Una noche, noche de placer, me encontré con mi bella María y le dije al alma mío, vente chiquitita de mi amor. Un besar tiene que me dio, con su labio ese coral me perdió, me perdió. Y al fin mi amor aprisionó con cadenas de su amor, con cadenas de su amor. Ah, María, dame tu amor, juré tu amor al mío. El dulce son que canto yo. Mira, 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 vente chiquitita, para darte besos mil y mil. Que el que te ama y te adora, te dará su corazón. María mía, canta el dulce son que canto yo. Mira, 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 vente chiquitita, para darte besos mil y mil, que el que te ama y te adora, te dará su corazón. ¡Oh! María, dame tu amor, jure tu amor al mío, y canta el dulce son que canto yo. Mira, 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 vente chiquitita, para darte besos mil y mil, que el que te ama y te adora, te dará el corazón.
C'est avec la voix de Caruso, chantant en espagnol une polka mexicaine de Posadas, qu'on se dit au revoir aujourd'hui, jusqu'au prochain épisode de Carrefour des Amériques. L'émission était réalisée par Béatrice Trichet, à la prise de son Pierre Monteil. L'émission est évidemment disponible en podcast.
À réécouter sur francemusique.fr.